Le dispositif qui vient de vous être présenté permet d'avoir des données qui viennent de l'auteur ou de l'auteur présumé ou des auteurs présumés et des victimes ou victimes présumées. Une autre façon de mise en lien qui est de plus en plus présente et même qui est actuellement incontournable est la participation, je devrais dire l'intrusion d'Internet. Il faudrait dire les écrans, mais aussi mais Internet. Et donc, je vais inviter le commandant Gauthier et le commandant Saint-Loubouë de la brigade de protection des mineurs de venir présenter leur travail ici même.
Alors, bonjour à tous. Effectivement, nous sommes deux fonctionnaires de la brigade de protection des mineurs de Paris. Il y a le commandant Lydie Saint-Loubouë qui est mon adjoint. Et moi-même, Fabrice Gauthier, je suis le chef du groupe Internet de la Brigade de protection des mineurs de Paris. Alors, pour vous situer un peu, pour ceux qui ne connaîtraient pas l'action de la Brigade de protection des mineurs de Paris, nous, on a l'exclusivité de toutes les affaires dont les mineurs sont victimes, mais victimes d'infractions sexuelles, intra- ou extra-familiales, c'est-à-dire soit au sein de la famille, au sein des institutions ou à l'extérieur, et donc, naturellement, Internet. Toutes les violences domestiques, on va dire, intrafamiliales, hein, les violences classiques, les coups, les blessures volontaires. On a effectivement l'exclusivité de ces affaires sur Paris, ce qui, comme l'a dit le docteur Ray, est pratique, aussi bien pour eux, mais aussi nous, pareil, les UMJ, c'est un partenariat solide et je peux dire qu'effectivement, on forme une équipe globale. Alors, on va d'abord clarifier certains points de vocabulaire et je vais vous faire une introduction en vous présentant un peu les réseaux sociaux. Moi, je préfère le terme de médias sociaux sur lequel on va concentrer notre activité, pour lesquels on a eu des affaires, où il y a eu des victimes, où il y a eu des prédateurs. Et ensuite, le commandant Saint-Loubouë, Lydie, va vous parler vraiment du vif du sujet et en fait de l'implication des chamboulements qu'ont provoqué aussi bien au niveau de l'activité des prédateurs que des victimes. Donc le chamboulement provoqué par justement ces médias sociaux. Et puis on vous parlera aussi des chamboulements que ça a provoqué à notre niveau. Il a fallu s'adapter naturellement. Alors un réseau social, j'aime pas trop ce terme-là parce qu'il est très généraliste. Hein. Si vous avez un carnet d'adresses papier encore, tous les gens qui sont dessus, c'est votre réseau social. Moi, je préfère le terme de médias sociaux. C'est les différentes activités qui intègrent la technologie, l'interaction sociale entre individus ou groupes d'individus et la création de contenu. Et la création de contenu est importante. Parce que ce qui fait que les jeunes adorent les médias sociaux, c'est justement parce que on peut créer des contenus, on peut éditer des choses, on peut envoyer des photos, on peut envoyer des vidéos. C'est pas uniquement des dialogues. Alors, bon, tout le monde connaît Facebook, naturellement. Hein, c'est le média social certainement le plus connu dans le monde. Après, il y a Twitter. Mais il n'y a pas que ça. Nous, les prédateurs, pour recruter leurs victimes, ils vont utiliser aussi ce qu'on appelle les blogs. Peut-être que certains d'entre vous qui ont des enfants connaissent les blogs de Skyrock. La radio qui a tout un site où les mineurs peuvent créer un espèce de blog et ils mettent en ligne des photos, ils mettent en ligne des vidéos, ils mettent en ligne leurs commentaires et des gens peuvent venir commenter ces photos et c'est comme ça que le lien se crée. Il y a des systèmes de messagerie interne qui permettent de prendre contact et de dialoguer. Il y en a d'autres un peu moins connus comme Overblog où là aussi on a eu plusieurs affaires. Après, vous avez tout ce qui est messagerie web instantanée, alors textuelle. Alors, je dis bien messagerie par une interface web. Donc là, on utilise un navigateur comme Firefox, Internet Explorer, et on va aller dialoguer. On va aller essayer de trouver des contacts. Et c'est là, en fait, où la rencontre se fait en premier. C'est là où les prédateurs se mettent en chasse. C'est essentiellement sur les messageries web instantanées. Alors, vous en avez qui sont... réservés entre guillemets, hein, on va dire qui sont plus orientés vers les ados, hein, par exemple ado.fr. Hein. Puis vous en avez d'autres où nous on sait qu'il y a une forte activité de prédateurs parce que on l'a vu au travers des différentes affaires qu'on a eues Et il y en a un qui est assez connu, c'est coco.fr. Parce qu'en plus, celui-là aussi, il a la particularité de pouvoir non seulement dialoguer par texte, mais de s'échanger des images. Puis vous en avez plein d'autres, hein. Là, c'est juste un exemple que je vous donne, chat.fr, chatfrance.fr, il y en a plein. Et puis après, on a commencé à avoir l'émergence, et là, c'est encore plus dangereux, c'est des messageries vidéo. Où là, en plus du texte, de pouvoir éventuellement s'échanger des fichiers, eh ben maintenant on peut se parler et on peut se voir avec la webcam. Peut-être certains d'entre vous ont connu le précurseur de ce système qui est un système russe qui s'appelait Chatroulette. Ben, naturellement, tous les pays ont commencé à développer leur propre système et en France, on va dire le Chatroulette français, c'est Bazookam. Il y en a d'autres qui sont américains comme Omegle, OVO, VChatter qui est russe. Et on voit de plus en plus d'affaires sur VChatter. Alors, qu'est-ce que c'est ? Ben, en gros, vous arrivez sur une interface et puis là, vous avez des gens qui sont connectés avec par webcam. Vous-même, vous avez une webcam et vous allez cliquer sur un interlocuteur et vous allez pouvoir vous voir et échanger avec la vidéo, avec le son et aussi avec le texte. VChatter, on en reparlera plus tard lors de l'intervention de Lydie. Je vous montrerai un exemple de ce que c'est. Et là, c'est moi, VChatter, je l'appelle le peep show amateur. Ça, c'est le plus simple. Et c'est pour ça que, en fait, c'est là où les gens se rencontrent. Parce que tout le monde est équipé d'un navigateur web. Et donc, au travers de cette interface, on peut accéder à ces systèmes. Et après, en général, une fois la rencontre établie sur ce genre de messagerie web, très souvent, il va y avoir un échange de coordonnées pour aller sur un système un peu plus privé, où ils ont le sentiment qu'ils contrôlent plus ce qui se passe, qu'il n'y a pas de témoin, parce que les prédateurs, ils peuvent toujours se dire, mais de toute façon, le site web, il est géré par un administrateur, qui peut voir les conversations en temps réel, qui peut voir certaines choses. Donc, leur but, ça va être ensuite d'aller vers une application où là, c'est vrai, c'est juste une communication one-to-one, et personne ne peut le voir, ni nous, ni la police, ni quoi qui que ce soit. Et là, ça va être les applications de messagerie instantanée. Alors avant, c'était Windows Live Messenger, hein, là aussi, si vous avez des enfants, je suis sûr que vous en avez entendu parler. Windows Live Messenger a cessé ses activités puisque c'est Microsoft qui gérait ça et ils ont racheté Skype. Et maintenant, le gros de nos affaires, c'est sur Skype que ça se passe. Après, vous avez quelques autres systèmes identiques, hein, comme par exemple Yahoo Messenger, mais on le voit moins. Ensuite, vous avez carrément des services d'échange ou de publication de photos, de vidéos. Là, le principe, c'est que vous mettez des images ou des vidéos sur le cloud, comme on dit, et puis vous allez donner des droits d'accès à votre famille, si vous voulez que ça reste limité à votre famille, et puis vous pouvez aussi donner des droits d'accès au monde entier. C'est par exemple Flickr, qui est le système de Yahoo, Picasa, qui est le système de Google, Instagram, qui lui est plus aussi Google. Vous avez YouTube, qui appartient également à Google, Vimeo. Alors YouTube et Vimeo, là c'est plus partage de vidéos. Vous avez aussi les sites de rencontres. Les mineurs aussi, hein, ils veulent rencontrer. Et ils vont également sur des sites de rencontres. Alors, a priori, la plupart des sites de rencontres... il faut normalement avoir un âge minimum pour y accéder. Beaucoup de sites disent sur la page d'accueil, c'est réservé pour les 18 ans. Bon, il y a quelques sites de rencontre qui commencent à partir de 15 ans, puisque la majorité sexuelle, c'est 15 ans. Mais tout ça, c'est du déclaratif. Et le commandant Saint-Loubet vous l'expliquera, les enfants n'hésitent pas à mentir sur leur âge pour accéder à ces services-là. Vous avez des sites de rencontres qui sont vraiment en fonction de l'orientation sexuelle. Hein. Vous avez des sites généralistes comme XFlirt. Si vous avez des sites pour homosexuels comme Zagay, où on a pas mal d'affaires, où les mineurs, parfois très jeunes, vont se créer un profil pour essayer de rencontrer et pour essayer d'avoir, on va dire, leur première expérience sexuelle. Vous avez aussi des sites des petites annonces. La plupart des sites des petites annonces ont une rubrique rencontres. Alors nous, on a eu pas mal d'affaires sur Wanon, sur Badou. Hein. Et puis après, vous avez les jeux en ligne. Alors là, les jeux en ligne, les gamins, ils adorent. Puis naturellement, les prédateurs, où est-ce qu'ils vont aller ? Eux aussi, ils vont se créer des profils sur les jeux en ligne, et puis ils vont aller sur les jeux en ligne. Surtout que les jeux en ligne, il y a souvent Il y a par exemple les achats in-app, ce qu'on appelle les achats in-app, qui permettent en fait d'acheter des possibilités supplémentaires dans le jeu, des équipements pour son héros. Il y a aussi une monnaie virtuelle en règle générale dans ces jeux qui permet d'acheter là aussi des composants pour son personnage, pour le faire évoluer plus rapidement. Et naturellement, c'est une autre porte, c'est une autre façon pour le prédateur d'aborder l'enfant, c'est qu'il va lui proposer de lui verser de l'argent virtuel. Alors l'un des plus connus pour la tranche, on va dire 10-12 ans, c'est Dofus. Et Dofus, on peut se marier virtuellement. Donc c'est un jeu quand même pour les plus jeunes, mais ils ont mis en place des systèmes où vous pouvez vous marier virtuellement dans le jeu. Il y a un système de monnaie aussi virtuel qui permet d'acheter des armes, d'acheter des tas de choses. Et on voit pas mal de prédateurs qui traînent là-dessus. Un autre que je vais citer, c'est Mabimbo. Je sais pas si vous avez des jeunes filles de 10-12 ans. C'est un jeu, on va dire, de mode, entre guillemets, où vous avez une espèce de personnage et vous allez l'habiller à la mode avec des chaussures, des vêtements, une espèce de poupée numérique. Vous avez les jeux d'équitation. Les enfants, ils aiment beaucoup les jeux liés à l'équitation, comme par exemple Equideo. Où là aussi, c'est un peu le même principe. Hein. Vous allez avoir des prédateurs qui vont traîner, qui vont essayer de rencontrer des mineurs par ce biais-là. Alors, les applications, au départ, c'était des applications en version ordinateur. Et donc Facebook, Twitter, Instagram, Skype, Viber, qui est un équivalent de Skype, Hangout, qui est l'équivalent de Google de Skype, les sites de rencontres comme Meetic. Au début, on ne pouvait y accéder que par ordinateur. Alors, c'est déjà pas mal parce qu'on s'est aperçu que les parents mettaient à disposition de leur enfant et parfois sans aucun contrôle un ordinateur. Mais bon, un ordinateur, c'est gros. Pour l'emmener dans la chambre après l'heure du coucher, c'est un peu compliqué, sauf s'il est déjà dans la chambre. Puis ça fait du bruit quand ça démarre. Mais après, il y a eu les smartphones. Et là, on a vu une recrudescence et on a vu un déplacement des affaires sur les smartphones et les tablettes. Et alors, soit les applications pour PC, elles ont migré vers les smartphones, soit il y a carrément eu des applications nouvelles qui ont été créées, mais vraiment pour les smartphones, et qu'on ne trouve pas nécessairement sur les ordinateurs, même si eux aussi, ils commencent à migrer sur les ordinateurs pour être le plus complet. Alors, vous avez par exemple WhatsApp, qui est vraiment très populaire. C'est un genre de messagerie SMS, mais auquel vous créez des espèces de tribus, de groupes. Et quand vous envoyez un SMS, ben, tous les gens qui sont dans ce groupe-là reçoivent le même SMS et peuvent suivre les conversations. Vous pouvez aussi vous envoyer des vidéos et des images, les publier, et tous les gens dans le groupe, ils vont pouvoir avoir accès à ces images, ces vidéos. Vous avez par exemple Tinder, qui est une application vraiment pour rencontrer, pour faire des rencontres. Grindr, qui est lui, a une application également qui permet de faire des rencontres, mais plus orientée homosexuelle. Avec de la géolocalisation, c'est-à-dire votre application, elle vous dit bah tiens, il y a un autre personne inscrite sur Grindr qui est dans 200 mètres près de vous, donc pourquoi pas le contacter et pour un plan cul ou quelque chose de genre là. Vous voyez, c'est vraiment des applications orientées. Et ben on a des enfants qui l'utilisent. Vous avez Snapchat. À Snapchat, on n'aime pas. Je sais pas si vous connaissez Snapchat. Là, d'ailleurs, on va voir si le monde médical est la page. Qui, par exemple, levez la main qui ont déjà utilisé Snapchat. Il y en a, mais il y en a pas beaucoup, hein, quand même. Les enfants, ils aiment bien Snapchat, les prédateurs aussi. Pourquoi ? Parce que la caractéristique de Snapchat, c'est que c'est un système qui vous permet d'échanger des photos. Mais quand vous envoyez une photo à quelqu'un, vous allez définir un temps pendant lequel il va pouvoir la regarder. Mettons 10 secondes. Donc cette photo va s'afficher pendant 10 secondes sur votre téléphone, et au bout de 10 secondes, elle s'efface. Alors, nous, on n'aime pas parce que c'est notre élément de preuve qui s'en va, quoi. On s'aperçoit que c'est de plus en plus en vogue, notamment les prédateurs, ils aiment pas parce que justement l'élément de preuve, il reste pas. Vous en avez une ou d'autres comme Kik, qui est aussi une messagerie pour dialoguer et s'envoyer, qu'on commence à voir apparaître. Alors il y a une difficulté supplémentaire pour nous, c'est que souvent ces applications, elles sont gérées par des sociétés qui sont à l'étranger. Et pour avoir les données, pour identifier les utilisateurs, c'est plus compliqué. Alors comme je l'ai dit, tous ces médias ces médias sociaux sont un lieu de rencontre et de prise de contact entre le prédateur et la victime potentielle. Et on va donc ensuite basculer vers un mode de communication plus discret qui va l'isoler avec sa victime. Ça peut aussi être un moyen de maintenir un contact. On a eu une affaire récemment où c'est un prédateur tout à fait classique qui sévissait dans le monde réel. Son truc, bon, il était un peu simple d'esprit. Il allait dans les parcs et il proposait aux gamins de moins de 10 ans 5 euros pour jouer à touche pipi. Il les emmenait dans les toilettes et puis bon, chacun s'exhibait. Le gamin, il récupérait sa pièce, enfin ses 5 euros. Et pour maintenir le contact, il leur demandait leur adresse Facebook. Et ensuite, il maintenait un contact avec Facebook pour éventuellement pouvoir recommencer l'opération ultérieurement. Bon, heureusement pour nous, parce que c'est grâce à ce contact Facebook qu'on a pu l'identifier et le remonter beaucoup plus facilement que s'il fallait que son signalement qu'il fallait traîner dans les parcs, quoi. Donc maintenant, je vais passer la parole à Lydie, qui va vraiment rentrer dans le vif du sujet et vous expliquer tout ce que ça implique, aussi bien au niveau prédateur, victime et police.
Bonjour à tous et à toutes. Alors pour moi, c'est une première. Hein. Donc je vais essayer, je vais vous parler de ce que les médias sociaux ont engendré. Et à travers d'affaires, au cours, des 10 années que je viens de passer au groupe Internet, sachant que ça fait 18 ans que je suis à la Brigade de protection des mineurs de Paris. Donc, les médias sociaux, en fait, c'est une aubaine pour les prédateurs. Parce qu'ils ont vu leur territoire de chasse s'agrandir de façon exponentielle. C'est un terrain qui devient mondial. C'est une chasse qui devient industrielle vu la multiplicité des médias sociaux. Ils ont une possibilité en fait quasi illimitée de rentrer en contact avec des victimes. Et vous connaissez un peu le principe de Facebook, l'ami de mon ami est mon ami. Donc on se retrouve avec alors autant les prédateurs sexuels dans la vie réelle. Bien que j'ai un peu de mal avec ce terme-là, vont chasser dans leur milieu familial, dans leur milieu professionnel, dans les écoles, dans les parcs. Là, avec les médias sociaux, ils peuvent chasser loin, très loin, en dehors de leur sphère familiale, territoriale, professionnelle. Ils vont aller très loin. On a eu des affaires. Où les victimes étaient éparpillées sur toute la France, l'affaire Blagojevic qui a fait en fait 150 victimes en l'espace, de 5 ans, cet individu a sévi, 123 sur le territoire français, avec des victimes sur toute la France, une dizaine dans le monde entier et 17 victimes belges. Nous avons eu une autre affaire énorme, l'affaire Astouette, qui a fait 6000 victimes, 1000 en France, 5000 au Canada. Donc, on peut voir que ça touche tout le monde, ça touche à l'échelle mondiale, et nous, les difficultés, bon, je vous parlerai plus tard, au niveau police, pour identifier toutes ces victimes. Donc, c'est vraiment... les médias sociaux, en plus, outre cet agrandissement du terrain de chasse, ont facilité les possibilités de manipulation, en toute discrétion, des victimes. Alors, ils ont la possibilité de jouer des personnages fictifs, et du fait que c'est derrière un écran d'ordinateur, ils ont plus de temps pour réfléchir et pour formuler leurs réponses et leurs questions, bien sûr, bien évidemment, avant d'allumer la webcam. Mais les premiers contacts, ça se passe par écrit, soit par chat, voilà. Et donc, ils ont beaucoup plus de temps pour formuler, pour réfléchir à la façon dont ils vont aborder les victimes et ce qu'ils vont dire. Alors, je vais vous raconter un petit peu l'affaire Blagojevic. En fait, c'est un individu qui s'était créé, qui rencontrait ses victimes d'abord sur Skyrock, et puis il les amenait à l'époque sur MSN, maintenant c'est Skype, mais avant c'était MSN. Donc une fois qu'il les avait entraînés sur MSN, il s'était créé plusieurs personnages fictifs. Le premier était très très agressif, c'est-à-dire que, excusez-moi, je reviens, MSN à l'époque, les jeunes gens On leur demandait d'ajouter le contact, on faisait pas attention. On ajoutait, parce que le but, c'était d'avoir énormément de contacts, ça se faisait, donc on faisait pas attention à qui on ajoutait. Donc, il se retrouvait dans les contacts de certaines jeunes filles, parce que lui était plus fille, hein, donc... Il était très agressif dans son premier personnage. Il demandait absolument à la jeune fille d'allumer sa webcam, systématiquement. Donc, intriguée, elle finissait devant l'insistance, par allumer la webcam. Et là, un individu qui se masturbe à la webcam. Donc, la plupart éteignaient, coupaient presque de suite. Il conservait les coordonnées, l'adresse électronique de la jeune fille. Deuxième personnage. Il l'a recontacté avec un autre personnage, un autre pseudo, une autre adresse électronique. Et là, il se faisait passer pour le Zorro des prédateurs. J'arrive, il y a des prédateurs, il faut s'en méfier, voilà. Et il entamait le dialogue comme ça, la jeune fille ne sachant pas que c'était la personne qu'elle avait eue au préalable. Et donc, il s'entraînait une conversation, il devenait le copain en plus qui pouvait dépanner informatiquement parce qu'il se présentait comme tel. Et puis, d'ailleurs, une des jeunes filles avait utilisé l'ordinateur à l'insu de ses parents. Et elle avait fait une fausse manipulation, et par mégarde, elle avait changé l'écran d'accueil. Alors là, panique, parce que mes parents allaient s'apercevoir que j'avais utilisé l'ordinateur, j'avais changé l'écran de veille, que vais-je faire ? Ben, je demande à cette Annie qui s'est présentée pour me dépanner informatiquement. Il le fait. Il prend le contrôle à distance de l'ordinateur, et là, magique, il récupère tous les contacts MSN pour alimenter son vivier de victimes potentielles. Et pour se faire payer un petit peu quand même de ce qu'il avait fait, du dépannage, il demande à ces jeunes filles gentiment, mais bon, ça serait quand même bien, je suis quand même un homme, ça serait bien que tu allumes ta webcam et que tu me vois me masturber. Certaines ont accepté, certaines pour en échange, comme un cadeau, pour ce qu'il avait fait, ont accepté de le voir à la webcam. Troisième personnage, donc toujours de la même façon, avec récupération des adresses électroniques, il se présente, on va dire, comme le pauvre individu qui a pas de vie, vie morne, confronté très vite au décès de sa maman, avec une vie très pauvre, et donc il joue sur l'empathie de ses victimes, de ses proies. Pour qu'elles acceptent d'allumer la webcam et de le voir se masturber, parce que c'était son seul but, enfin, d'aller jusqu'à la rencontre, mais surtout qu'elles le voient s'exhiber, parce qu'il ne pouvait s'exprimer qu'à travers Internet, à travers la toile, pour assouvir ses besoins sexuels. Donc, beaucoup ont accepté, parce que l'empathie fait que, c'est un pauvre type, on peut accepter. Et le dernier personnage, c'était l'amoureux virtuel. Alors, beaucoup sont tombés dans le panneau parce qu'elles ont pensé que c'était les seules princesses, qu'il était, c'était leur héros, et donc elles se sont engagées dans un amour virtuel, et elles ont accepté à la fois de se voir, de le regarder se masturber, mais également de se déshabiller à la webcam. Voilà. Donc, pour vous montrer que il a su manipuler et créer des personnages vraiment différents et attaquer, faire un grand nombre de victimes, puisqu'il en a fait 123 sur le territoire français. Et il est allé également jusqu'à la rencontre. Il a rencontré deux jeunes filles, une qu'il a réussi à faire venir à son domicile. Avec qui il y a eu des attouchements, on a retrouvé des photos sur son canapé, et puis une autre où il est allé en Belgique, et il est allé la rencontrer à l'hôtel, et avec qui il a eu des relations sexuelles. Voilà. Donc ça, c'est une première affaire pour vous montrer les personnages fictifs, mais les médias sociaux ont permis aussi cette facilité de devenir l'ami, le confident, et de profiler les victimes. Parce que il faut bien voir que les médias sociaux ont été investis par les mineurs, investis, et donc ils parlent, ils laissent des traces partout, ils vont parler de leurs goûts musicaux, de leur goût culturel, de ce qu'ils aiment, de ce qui va pas aussi. Hein, ils vont signaler quand ça va pas, ils vont dire quand ils se sentent pas bien. Et tout ça, c'est récupéré par les prédateurs sexuels. Ils utilisent les failles des victimes pour rentrer en contact avec elles et se présenter comme l'ami, le confident, et pour après aller plus loin. Donc on a, je vais vous parler de deux affaires qui sont marquantes. L'affaire Glérouse. Alors là, c'est une jeune fille de 13 ans dont les parents sont divorcés. Elle a vécu très longtemps au Sénégal et elle gagne la capitale pour rejoindre sa mère. Elle est seule parce qu'elle avait une relation très fusionnelle avec son père, et ce qui fait qu'elle se retrouve un peu esselée à Paris, en mauvaise entente avec sa mère, victime de colibés et de railleries à l'école parce que un peu boulotte, donc ça se passe pas très bien au collège, donc un personnage très seul. Le soir du réveillon, la maman part festoyer et laisse sa fille seule au domicile. Donc elle trouve le moyen de passer un peu de temps, et elle va sur un site qui s'appelle QuizBiz, site de réponse en ligne, de questionnement, tout ça. Et là, elle rencontre son agresseur. Il sent de suite sa solitude. Il s'engouffre dans la brèche. Donc il bascule sur Skype pour discuter, bien sûr, donc toujours l'isolement, hein. On rencontre dans la sphère publique et puis on bascule dans l'isolement. Et là, s'instaurent des conversations, mais sur un long terme, hein, au moins 6 mois. Pendant 6 mois, ils vont discuter. Il va devenir son confident, son ami. Elle va lui raconter sa vie, ses problèmes personnels, les problèmes de lien qu'elle rencontre avec sa maman, ses problèmes au niveau scolaire. Et puis, elle va dire qu'elle va être addicte à ces conversations. Elle va sortir du collège, elle va courir pour arriver à son domicile et pouvoir discuter avec lui, tellement ce lien est important. Il va continuer le même cheminement et devenir l'amoureux, parce que... Elle en tombe un petit peu amoureuse. C'est tellement important pour elle que il va utiliser cette importance et cette addiction pour lui demander, là encore, qu'elle le voie s'exhiber à la webcam, qu'il fasse des choses sexuelles à la webcam. Elle va accepter. Elle va faire de même. Et puis un jour, il va plus loin. Il lui dit qu'il vient un jour sur Paris pour voir une exposition d'art, et il lui propose de la rencontrer. Elle accepte. Elle dit, bah oui, c'est mon ami, on a fait des choses, c'est quelqu'un de très important, j'accepte. Elle le fait venir au domicile, à l'insu de la maman. La maman est en train de travailler, elle ne le sait pas. Et il lui impose des relations sexuelles par sodomie. Elle en est profondément blessée. Il repart, comme si de rien n'était. Elle tait les choses jusqu'à ses 18 ans. Parce que la maman découvre par hasard des écrits qu'elle a laissés en disant « tu t'es pas aperçu quand t'es rentrée, tu as vu ta fille, ta grosse fille sur le canapé, et tu ne t'es pas aperçu que j'allais pas bien, je n'ai pas pu marcher pendant une semaine, j'avais tellement peur de mourir, de saigner. » Et là, la maman, elle découvre les choses, et c'est comme ça que l'affaire nous est amenée. Mais elle n'en a jamais parlé lorsqu'elle avait 13 ans. Voilà. L'autre affaire que je voulais évoquer avec vous concernant ce profilage des victimes et cette rencontre utilisée, ce que vont dire les jeunes sur les médias sociaux utilisés par les prédateurs, c'est l'affaire Mérigo, Jeanne, on va dire. Alors elle avait laissé sur son blog une photo de son profil, et elle disait qu'elle se trouvait pas belle, qu'elle avait des problèmes avec son physique. Alors là, ça a été la brèche ouverte pour que le prédateur rentre en contact avec elle et la rassure sur son physique, lui dise « Non, tu es jolie, il faut pas que tu penses des choses comme ça. Enfin, quelqu'un me trouve jolie. » Elle a accepté de discuter avec lui. Ils ont basculé, bien sûr, sur Skype, mais également pas énormément. Ils ont conversé par SMS énormément. Et très vite, il lui a proposé de la rencontrer et d'avoir des jeux sexuels avec elle. Elle était tellement dans la reconnaissance que quelqu'un enfin lui dise qu'elle est jolie et qu'elle existe pour quelqu'un, qu'elle a tout accepté. Jusqu'à des relations sadomaso auxquelles elle n'était pas prête du tout puisque c'était sa première expérience sexuelle. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que tout est utilisé par les prédateurs. Ils ont le temps, ils sont là, ils veillent, ils récupèrent les informations et ils rentrent en contact avec les mineurs grâce à ça. Et donc c'est comme ça que on a vu que les médias sociaux ont permis l'augmentation du nombre des prédateurs potentiels, parce que tous les timides, les peureux, les asociaux, qui dans la vie réelle ne seraient pas passés à l'acte pour aller à la rencontre de gamins, voilà, à la sortie du collège ou dans les parcs ou tout ça, ont trouvé grâce à Internet, grâce aux médias sociaux, ils sont derrière leur ordinateur, ça leur ouvre un monde extraordinaire. Voilà. Et donc ça a augmenté ce nombre de prédateurs que nous n'avions pas avant. Alors, les médias sociaux sont un danger pour les mineurs non avisés. On s'est aperçu que véhiculent beaucoup toutes sortes de contenus et ça a banalisé leur rapport au sexe. Dans une affaire, Bucilla. Alors l'origine de cette affaire, elle est, on va dire, un peu dramatique. C'est une affaire au départ banale de, faut pas prendre, voilà, de détention et de diffusion d'images pédopornographiques. Nous allons au domicile de l'individu qui est signalé comme diffusant des images pédopornographiques. Nous l'interpellons, nous perquisitionnons à son domicile et nous analysons son matériel informatique. En analysant son matériel informatique, nous nous apercevons qu'il abuse sexuellement de son bébé de l'âge de 9 mois jusqu'à 2 ans. Et que, outre ça, il prenait les photos, mais qu'il diffusait ces photos. Et que, en plus, il jetait en pâture, je pèse bien mes termes, jetait en pâture à d'autres individus, via Skype, son bébé, qu'il agressait à la webcam devant d'autres individus. Donc, nous avons bien sûr interpellé tous ces autres individus qui ont vu ce bébé se faire agresser, qui ont reçu les photos. Lucilla fait partie de ceux qui ont vu ce bébé se faire agresser. Donc, nous sommes allés à son domicile. Là encore, la même chose, nous l'avons interpellé, perquisitionné, et on a analysé son matériel. Et là, en analysant son matériel, non seulement il y avait le côté avec le bébé, mais en plus, nous nous sommes aperçus que c'était un prédateur sexuel. Qu'il allait sur les chats d'ados, alors que c'était un adulte de 30 ans, qu'il se faisait passer pour un jeune de 17-18 ans, et que il chassait donc ses victimes pour qu'elles le voient, là encore, s'exhiber à la webcam, parce que c'était pour assouvir son besoin sexuel, et aussi pour les rencontrer, toujours. Hein. D'ailleurs, il en a rencontré une. Donc lui, il a fait, 11 victimes que nous avons entendues, mais on en a entendu en tout 23. Et les 12 autres, en fait, pour la plupart, nous ont dit « Mais je n'ai pas été choquée de le voir s'exhiber à la webcam. » « Ah bon ?»« Bah oui, parce que c'est monnaie courante. Monnaie courante que on allume, on tombe sur les chats, sur des gens qui s'exhibent. » Donc je n'ai pas été choquée, j'avais déjà vu des films pornographiques à l'école, au collège, aussi, parce que c'est avec les smartphones, dans la cour de récréation, ça passe. Ah. Pourtant, c'est choquant d'avoir une image d'un seul coup et de voir Alors, elle les préparait quand même, hein, parce que son approche, c'était je veux être votre guide sexuel, je vais vous expliquer comment ce que c'est la sexualité. Donc, il expliquait les fellations, il expliquait l'anatomie des hommes, Donc, c'était un show sexuel, c'était un guide sexuel pour les éveiller à la sexualité, et 11 jeunes filles ont accepté de le voir. Certaines sont tombées très amoureuses de lui. Il lui a fallu pratiquement des fois 6 mois de mise en confiance, et certaines étaient complètement accros à ces discussions et accepter des choses qu'elle n'aurait jamais acceptées dans la vie courante. Voilà. On s'est aperçu que les médias sociaux étaient aussi hors du champ de contrôle des parents. Pourquoi ? Parce que il est plus facile, on va dire, de contrôler les sorties de ses enfants à l'extérieur que l'utilisation qu'ils font d'Internet. Et ça s'est accentué notamment, comme vous l'a dit le commandant Gauthier tout à l'heure, avec l'arrivée des smartphones et des tablettes, parce que les parents maintenant commencent à récupérer les ordinateurs la nuit, mais ils oublient les smartphones et les tablettes qui sont à disposition. Et on s'est aperçu tout au cours de ces affaires que les conversations avaient lieu très tard. Ça commençait vers 22h, 23h, mais ça se poursuivait la nuit jusqu'à 3h, 4h du matin, alors que les parents dormaient. Et les enfants, ben, sont pas fous, hein. Ils sont addicts, donc ils vont récupérer, ils ont le smartphone à disposition, et puis ils vont poursuivre les conversations pendant que papa et maman dorment. On a eu une affaire, là, récemment, où la jeune fille de 13 ans va dormir chez sa tante. La tante s'endort, elle récupère l'iPad, elle va sur Instagram. Là, exhibition, elle rencontre des hommes qui sont sur Instagram, on s'exhibe à la webcam, on fait des choses sexuelles à la webcam. Ah, la batterie d'iPad tombe en panne. Ah bah c'est pas grave, on va récupérer le smartphone de la tante à 3h du matin. Et on bascule sur une autre application, Snapchat, où on continue à faire des webcams, des choses sexuelles. Voilà. Donc cette affaire-là nous a amené, parce qu'elle ne faisait pas ça toute seule, elle faisait ça avec sa cousine, qui elle a été complètement paniquée de se retrouver comme ça, de façon sexuelle, avec des gens en face, et donc elle a dénoncé les faits. Voilà. On s'est aperçu que la plupart des parents maîtrisaient pas les outils de communication, les paramétrages de Facebook, la sécurité, voilà. Enfin, on s'est aperçu que les enfants, enfin les mineurs, accédaient notamment à des services qui n'étaient pas de leur âge. Ils mentent. Ils mentent quand ils vont sur ces services, sur leur âge, ils se vieillissent. Alors, les prédateurs mentent, ils se rajeunissent, et les victimes mentent, elles se vieillissent. Nous avons Marie, affaire Boussu, qui, elle, à 13 ans, se sent un peu désœuvrée, donc s'inscrit sur un site X-Flirt. Et là, elle se crée un profil de jeune fille, de jeune femme de 28 ans. Elle est là, bien sûr, ben, elle est abordée par des adultes, hein, par des hommes adultes, qui lui proposent de s'exhiber, et elle le fait. Elle rentre dans le jeu. Elle rentre dans le jeu parce que elle est curieuse, mais au bout d'un moment, cette situation, ben, la dépasse. Elle n'arrive plus à la maîtriser, parce que du haut de ses 13 ans, elle n'a pas assez d'expérience face à des individus qui en ont 28, 30, qui sont mariés, qui ont 2 enfants. Il y en a un des deux, elle dit quand même, attention, je suis mineure. Elle se vieillit encore, elle dit qu'elle a 15 ans, mais c'est pas grave ton âge, on peut continuer. Moi, ce que j'aime, c'est que tu me vois m'exhiber à la webcam. Et donc, il lui propose de la rencontrer, elle donne tout un tas d'informations sur son adresse, tout ça, et en fait, elle prend peur. Elle prend peur parce que tout ça, ça la dépasse, et elle finit par en parler à ses parents, qui viennent déposer plainte à la brigade des mineurs. Voilà. Mais elle aurait pu aller beaucoup plus loin. Voilà. Et en fait, on s'est aperçu qu'avec les médias sociaux, toutes ces victimes sont devenues extrêmement participatives. Avec l'effet des inhibiteurs d'Internet, elles sont derrière leur écran, tout comme les prédateurs, elles se sentent en sécurité. Et c'est un faux sentiment de sécurité, hein. Mais elles se sentent quand même en sécurité, d'ailleurs, et donc elles acceptent beaucoup de choses. On voit qu'elles font aussi des choses entre copines. Et notamment sur un site qui s'appelle VidChatter.
Alors, très rapidement, là, je vais essayer de vous montrer une vidéo, si je la trouve.
C'est C'est une vidéo sur un site où vous allez voir. Ce sont trois petites, hein, qui sont très jeunes d'ailleurs. Vous allez être étonnés de leur âge. Et c'est sur le site WeChatter. Voilà. Donc le sentiment de sécurité. On est trois. On peut aller sur WeChatter. Et vous allez voir que ça se termine de façon.
Ça rigole, là. Hein. Elles sont contentes. Elles s'amusent. C'est un jeu dont elles ne mesurent pas les conséquences. Puis à un moment donné, voilà ce qu'on a. D'accord. On va pas aller plus loin. C'est un exemple. Et des vidéos comme ça, il y en a des centaines sur Internet, hein, où elles sont en maillot de bain, elles défilent, et puis petit à petit, on enlève le haut, on enlève le bas, et puis des fois, ça se termine vraiment carrément par des actes sexuels, les introductions d'objets dans le sexe, et des choses comme ça.
Je vais me dépêcher. Alors, en fait, ces victimes, on s'aperçoit qu'elles bravent les interdits. Elles ont accepté de parler à des inconnus, de se livrer à des inconnus. Elles ont accepté d'avoir des conversations à caractère sexuel avec des inconnus et elles sont entrées dans leur jeu. Elles ont à la fois envoyé des photos d'elles qu'elles ont prises avec leur smartphone ou leur voilà. Elles se sont exhibées. Elles ont accepté qu'on leur parle de sexualité de façon très crue. Voilà. Et elles font ça aussi d'une certaine façon, de façon inconsciente. Parce que elles n'ont pas conscience que ces prédateurs peuvent enregistrer et diffuser leur image. Et elles ne se sentent pas. Et il y a tout ce, aussi également ce phénomène de survictimisation, c'est-à-dire qu'à partir du moment où leur photo est injectée ou leur vidéo est injectée dans la toile, c'est terminé, c'est à vie, on ne peut pas les enlever. Mais ça, elles ne le réalisent pas sur le coup. Quand elles se déshabillent, quand elles acceptent de faire des choses comme ça, elles ne le réalisent pas du tout. Pour autant, on s'aperçoit que dans ces actes sexuels, comme elles sont participatives, elles n'ont pas cette notion de vie. Elles ne se sentent pas obligatoirement victimes. Elles commencent à se sentir victimes quand il y arrive du chantage, c'est-à-dire que quand les prédateurs sexuels, séducteurs, deviennent des maîtres chanteurs. Et là, on se retrouve avec des jeunes filles qui nous disent oh, « Mais j'ai peur, parce que j'ai pas voulu faire plus de choses, il m'a menacé de diffuser ma vidéo, mes images. » Et là, on se retrouve dans le personnage de la victime qu'on connaît. Et on a toutes les affaires, alors je vais aller très vite, de brouteurs, je ne sais pas si vous connaissez, c'est ce qu'on appelle le sextorsion, ça vient essentiellement d'Afrique. En fait, alors ça touche essentiellement les majeurs, mais on a eu des mineurs qui ont été touchés par ça. Ils croient, ils sont sur les sites de chat, ils croient avoir en face, en fait, une jeune femme, donc ils vont s'éveiller à la sexualité, ils vont se déshabiller, la jeune femme fait de même, et pouf! À la fin de toute cette exhibition, on dit ben non, là c'était pas une jeune femme et on a ta vidéo où tu te masturbes où tu es là et si tu nous donnes pas d'argent, on va diffuser cette vidéo. Alors là, c'est la panique parce qu'on va diffuser la vidéo, les proches vont le savoir, les réseaux d'amis vont le savoir, et donc là, on a des gamins qui sont complètement en panique, là qui vont pour le coup dénoncer les choses. Et ça peut même aller très loin. On a eu des affaires où des gamins se sont suicidés parce qu'ils étaient complètement paniqués par rapport à ça. Voilà. Donc c'est ce qu'on appelle les sextorsions, les brouteurs. Mais on a aussi ces prédateurs séducteurs qui reviennent à la charge et qui deviennent des maîtres chanteurs. Voilà. Donc ça nous a les médias sociaux nous ont posé des problèmes aussi à nous. On a dû s'adapter. Donc vous avez bien compris la multiplicité des victimes. Donc avec une compétence territoriale, nous, qui est Paris et Petite Couronne, et quand on a des victimes qui sont en province, c'est compliqué. Et donc, ce qui fait que les dossiers prennent du temps, et pour au final être jugés très longtemps après. Donc on s'est posé la question sur si c'est pas préjudiciable également à la sanction pénale. Et la question, c'est la nécessité d'identifier toutes ces victimes et de toutes les entendre quand on en a 123. D'un autre côté, moi, je suis mère de deux petites filles, et si ça arrivait, ben, j'aimerais bien être au courant pour pouvoir déposer plainte et pour pouvoir poursuivre cet individu. Donc, vous voyez le dilemme dans lequel on se trouve. Ensuite, Pour nous, policiers aussi, ça a posé un problème parce qu'on a une multiplicité de données à analyser. À la fois les ordinateurs de victimes, parce que les victimes ne disent pas toujours toute la vérité, donc il faut qu'on aille chercher dans leur ordinateur ce qui s'est passé, et puis aussi les ordinateurs des auteurs. Donc voilà, ça nous fait beaucoup de choses. Et en fait, bon, tout n'est pas négatif, hein, parce que dans nos enquêtes, on s'est adapté, et les médias sociaux, pour nous, c'est une aide fabuleuse à l'enquête. Hein, on s'est aperçu que depuis leur développement, il n'y a pas une seule enquête de la Brigade des mineurs qui ne sort pas avec une recherche sur les gens, puisque les gens laissent, aussi bien les prédateurs que les victimes, laissent des traces, et donc on va les chercher. Donc c'est une aide énorme à l'enquête. Voilà.
Voilà, alors...
Merci.
Voilà, je me dis qu'on a terrorisé tout le monde, ils vont tous rentrer chez eux, et les enfants vont passer sur le grill ce soir, montre-moi ton smartphone, ta tablette, alors bon, pas de panique, hein, on est là. Hein. Voilà, donc c'est le moment des questions, nous on s'en pose beaucoup, alors on n'a pas trop le temps de développer, mais si vous avez des questions, alors n'hésitez pas. Hein.
C'est pas des enfants assez solitaires, ça peut toucher tout le monde, sauf que, oui, la question c'est, est-ce que ce sont des enfants, le profil des enfants victimes, est-ce que ce sont des enfants solitaires? Pas obligatoirement, je pense que ils ont une faille, et elle est utilisée. Alors, à un moment de l'adolescence, les enfants vont tous se poser des questions. Ils vont pas obligatoirement dans la cellule familiale pour trouver la réponse à leurs questions. Et donc, vous avez un peu tout. Vous avez des enfants qui se sentent pas bien physiquement. Vous en avez d'autres. Il y a des conflits avec les parents. Donc, tout ça, ils vont l'exprimer. Et ce qui fait qu'ils vont avoir, les prédateurs vont avoir une oreille attentive, attentionné, et c'est là où va s'engager, et c'est là où va se faire le contact. Ces enfants, les enfants qui vont trouver des réponses ailleurs que sur les réseaux sociaux dans la cellule familiale, ils pourront, même s'ils sont confrontés à ces prédateurs-là, ils pourront leur dire, non, stop, ça m'intéresse pas.
Oui, mais c'est vrai que, faut quand même garder espoir. Nous, on va sur les chats en se faisant passer des fois pour des mineurs, et je peux vous garantir que 9 mineurs sur 10 ont quand même la tête sur les épaules. Et ce qu'on perçoit, c'est quand même que les prédateurs, ils cherchent quand même la faille éducative, la faille psychologique. Hein, c'est ce que vous a dit Lydie, c'est que si sur le blog on voit qu'au travers de la lecture d'un blog que la gamine elle est fragile, qu'elle a des soucis, c'est sûr qu'elle va être peut-être plus ciblée par un prédateur qu'une autre.
Moi je suis assistante sociale, je travaille dans un service éducatif et j'ai eu connaissance dernièrement d'une jeune fille qui échangeait des mails assez importants avec une personne sur internet, donc dont le contenu était à caractère sexuel extrêmement trash, on pourrait dire. Il y a eu un dépôt de plainte. Et cette plainte n'a pas été retenue. Parce que ma question, c'est à partir de quel moment il y a un délit dans la mesure où ce qui a été dit par la brigade des mineurs, semble-t-il, qu'il n'y avait qu'un échange et que donc on ne pouvait rien faire.
Ça dépend de l'âge de la mineure. Hein. La loi, c'est.
Oui, je crois qu'elle avait, il me semble qu'elle a plus de 15 ans.
Oui, je crois qu'elle avait 15 ans. La loi punit les propositions à caractère sexuel faites par un majeur sur Internet à une mineure de moins de 15 ans. Donc la réponse, elle est tout à fait normale. C'est que à partir du moment où vous avez la majorité sexuelle à 15 ans, ce qui veut dire qu'un mineur peut avoir des relations sexuelles avec quelqu'un, quel que soit l'âge, sauf s'il y a un lien d'autorité entre les deux, c'est pareil, si elles veulent, ça fait partie du jeu. Actuellement, le sexe par webcam, le sexe, on va dire, écrit, ça fait partie maintenant du jeu amoureux qu'on voit. Et donc, vous pouvez pas l'interdire. Si la mineure accepte ça et qu'il n'y a pas une notion de pression, de chantage, bah, malheureusement, la loi, pour l'instant, on nous dit que c'est 15 ans. Hein. Elle aurait moins de 15 ans, là, effectivement, le délit tenait et on pouvait faire quelque chose. Mais ça me dit quelque chose, je crois que je me rappelle de votre signalement.
Un des titres du paragraphe qui nous était montré, que vous avez évoqué, s'appelait « Médias sociaux, un danger pour les mineurs non avisés ».
Oui.
Le mode d'emploi, comment on s'y prend pour parce que moi, spontanément, j'aimerais bien leur faire part de ce que vous avez dit, que c'est tellement éclairant. Comment on s'y prend?
Je crois que là, il faut... Pour moi, c'est un problème surtout d'éducation. On résoudra avec l'éducation. On résoudra en sensibilisant ces enfants au danger. Alors, je peux pas vous dire sous quelle forme cette sensibilisation est faite. Des fois, je me dis, tiens, je devrais noter toutes ces affaires-là. Et puis un jour, trouver quelqu'un qui sait écrire et écrire un livre qui explique tout le mode opératoire de ces individus-là pour que les parents et les enfants soient au courant. Mais bon, voilà, je suis pas écrivain et j'ai beaucoup de choses à faire. Et on se dit souvent ça entre nous. Si le public savait toutes les affaires qu'on avait, ben, il verrait qu'il pourrait prévenir les enfants. Et pour moi, c'est ça, c'est la prévention, c'est le dialogue, c'est vraiment expliquer aux enfants les dangers qui existent sur Internet. Alors, il y a des sites qui existent, hein, il y a des associations qui font des jolis CD où les choses sont expliquées, parce que, puis bon, il y a certaines choses aussi au niveau du bon sens, et alerter aussi les parents sur le fait que, ben, voilà, quand votre enfant, on va dire de moins de 13 ans, il va se coucher, ben, le smartphone, il le dépose dans le salon ou dans la chambre des parents. Hein, parce que des fois ils vont le piquer. C'est pareil, l'ordinateur, bah, on le met pas dans la chambre de l'enfant, on le met dans une pièce familiale jusqu'à au moins, on va dire, on essaie minimum 13 ans, on essaie de pousser jusqu'à 15, quoi. J'ai pas de formule miracle à vous donner. Pour moi, c'est vraiment la prévention, parler avec votre enfant, essayer de vous intéresser à ce qu'il fait sur Internet et peut-être de faire l'effort de comprendre comment ça fonctionne et justement pouvoir exercer le pouvoir de contrôle parental. Je sais pas si Lydie, tu as autre chose à ajouter là-dessus.
Moi, je voulais juste vous dire également que sur toutes les affaires que je vous ai évoquées, très peu de jeunes filles ont dénoncé les faits. C'est-à-dire que par exemple, sur l'individu qui a fait 123 victimes, une seule a dénoncé les faits à la police. Sur les 6000 victimes, une seule Canadienne a dénoncé à la police. Toutes ces jeunes filles, ces jeunes filles et ces jeunes garçons, hein, pour la plupart, nous les retrouvons parce que nous analysons le matériel de l'auteur, on s'aperçoit qu'il rentre en contact avec eux et que de la manipulation... Mais elles n'en parlent pas, même si elles sont choquées, même si quelque part ça va pas bien dans leur vie, elles n'en parlent pas parce qu'elles ont peur du regard des parents, de leur réaction, qu'on leur coupe Internet et qu'elles n'ont plus accès à leurs réseaux sociaux. Mais quand on contacte les parents en leur disant « ben votre fille est rentrée en contact avec tel individu, c'est bien elle qui utilise cette adresse électronique ?» Oui, et qu'on leur explique l'affaire, « Ah, mais c'est pour ça que ma fille va pas bien depuis un certain temps. C'est pour ça que c'est notre chute. C'est pour ça que tout va pas bien. » Et là, les choses, c'est clair aussi. Voilà. C'est que nous, on a un réel problème. C'est que ces jeunes filles ne viennent pas directement comme dans les autres groupes de la Brigade des mineurs où les jeunes filles ou les jeunes gens viennent dénoncer les choses. Nous, ils les dénoncent pas. Il faut qu'on arrive à les faire parler. Et on a tout un travail auprès d'eux pour leur expliquer qu'ils ont été victimes de manipulation, que ce sont des enfants, que... En face, ils avaient un adulte, et que cet adulte a joué sur leur naïveté et leur manque d'expérience. Et ça, c'est très compliqué, parce que des fois, non, je ne parlerai pas, je ne veux pas, j'ai trop peur. Donc c'est un gros travail. Voilà, je voulais juste vous montrer ça, enfin vous expliquer ça également.
Attendez.
Dites que vous allez, quand vous apercevez qu'une jeune fille a été en contact, vous contactez les parents. Est-ce que vous tombez le plus souvent vers des parents qui vont être aidants vis-à-vis de leur enfant, ou comment ça se passe?
Alors, maintenant, oui. On a eu quelques parents qui, du fait de la participation de leur enfant, disaient, ben, en gros, elle l'a mérité. Mais c'est vraiment très, très rare. La plupart des parents, déjà tombent des nues. Et puis ensuite, oui, effectivement, mon enfant, il s'est fait manipuler, et on le voit, hein, ces manipulations, parce que quand on dit à la jeune fille, t'étais pas la seule, mais il y en avait 20 autres qui étaient les amoureuses, qui étaient, donc ils sont là, ils aident leurs enfants, mais par contre, ils sont souvent perdus dans tout le système et tout ça, mais bon, c'est pour toutes les infractions, ça.
Bien, mais il nous reste à remercier le commandant Gauthier et le commandant Saint-Loué pour cette intervention extrêmement intéressante et qui va faire que ce soir va être très mouvementé au retour au foyer.
Donc, vous...